CIM 103.9 101.3. Notre invitée, Karine.
Oui, ce matin, il y a un cri du cœur des médecins qui a été lancé dans le Journal de Montréal. C'est une cinquantaine de médecins qui dénoncent le recours trop facilement aux médicaments pour traiter les symptômes qui s'apparentent au trouble du déficit de l'attention. C'est une lettre d'abord qui a été coécrite par Joël Monzé, docteur en neurosciences, qui tient ce discours-là depuis fort longtemps. De vous voir soutenu par au moins 45 pédiatres ce matin, ça doit, c'est une avancée assez spectaculaire.
Oui, en fait, c'est une avancée et en même temps un constat inquiétant, dans le sens que pour que justement autant de médecins spécialistes se prononcent par rapport à ce sujet, c'est vraiment qu'on se rencontre chacun dans notre petit bureau, que justement ça prend des proportions démesurées.
Qu'est-ce que vous voulez dire justement? Qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière à travers cette lettre-là?
Mais en fait, ce qu'on veut mettre en lumière, c'est que oui, il y a des enfants qui sont en détresse. Il y a des familles qui vivent des grosses difficultés, qui sont confrontées à des problèmes. Il y a des classes qui sont de plus en plus difficiles à tenir. Et ça, on ne va pas contester. Non, on est face à une détresse collective de beaucoup de personnes. Les statistiques qui sont sorties en décembre dernier parlaient d'une étude qui a été faite sur 62 000 jeunes. On parlait de 23 % des jeunes qui avaient reçu un diagnostic de TDAH et 17 % de jeunes qui avaient un diagnostic d'anxiété généralisée. Donc, si on prend juste ces deux diagnostics-là, on a 40 % des jeunes au Québec qui sont hypothéqués au niveau de leur vie parce qu'il y a des troubles de santé mentale apparents. Alors, la question, c'est est-ce que la manière dont on répond à leur détresse, à leur difficulté de s'impliquer et de s'insérer dans la vie en utilisant le médicament, en fermant parfois les yeux sur des symptômes qui pourraient nous raconter une autre histoire que le TDAH, est-ce que la médication n'est pas venue mettre un plaster sur une douleur? Et il est temps qu'on s'adresse à cette douleur-là pour éviter de continuer à avoir une médication ou un surdiagnostic comme on l'a pour l'instant.
Et est-ce que c'est québécois, ce symptôme-là? Parce qu'on dit qu'au Québec, il y a 3 fois plus de prescriptions qui sont émises que dans le reste du Canada.
Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que nous avons l'assurance médicaments depuis une vingtaine d'années, ce qui fait en sorte que quand le parent a le choix entre une psychothérapie qui va probablement devoir aller faire au privé et qui va lui coûter beaucoup d'argent, ou un médicament qui est couvert par le collectif, mais le réflexe du médicament, il est là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que beaucoup certains confrères ont tendance à présenter l'enfant comme face à un trouble neurologique. Donc, on peut pas faire grand-chose d'un point de vue psychologique, si c'est un trouble neurologique. Non, c'est parce que toute notre psychologie, elle est neurologique. Donc, on donne des mots, on utilise des mots qui sont parfois détournés de leur sens pour justement favoriser la prise de médicaments. Alors, quelque part, c'est de se regarder, c'est qu'est-ce que nous faisons, nous, dans notre famille, qu'est-ce que nous faisons, nous, dans nos écoles, qu'est-ce que nous faisons, nous, dans notre quartier, pour soutenir les enfants, les ados et les familles qui sont en détresse.
Parce que à l'intérieur du Journal de Montréal, Dr Monzé, il y a une partie qui m'a bien intéressé où on peut lire que le Dr Falardeau, dont 90 % des patients sont des enfants qui ont reçu des diagnostics de TDAH, estime aussi qu'il y a tout simplement trop de faux diagnostics. C'est pas un papa puis une maman qui est un peu inquiet de voir aller leur enfant, c'est un docteur qui se prononce là-dessus.
Et c'est la chose qui est encore plus particulière avec le docteur Falardeau, c'est que c'est le premier pédiatre qui a commencé à parler de TDA, TDAH au Québec. Donc, il y a 25-30 ans, lui, il est venu avec cette manière de voir les enfants. Et oui, il y a certains enfants qui correspondent très bien à cette définition médicale du TDA-TDAH. Mais malheureusement, il y a un paquet de jeunes qui vont avoir des symptômes qui vont s'apparenter au TDA-TDAH, mais qui n'en sont pas. Moi, j'ai la chance, ça fait 22-23 ans que je suis dans une fac de médecine. J'ai été étudiant, puis je suis professeur aujourd'hui associé. Mais je ne suis pas médecin. Autrement dit, je n'ai pas l'outil du médicament pour intervenir. Donc, moi, ma réalité, c'est oui, il y a la connaissance en psychologie et en neurosciences, mais aussi la réalité des familles que je rencontre. Et je me rends compte justement que parfois, c'est une problématique d'usage des écrans, parfois c'est de la nourriture qu'ils mangent, parfois c'est un trauma qu'ils ont vécu à la naissance ou par la suite. Et il y a un paquet de raisons pour lesquelles l'enfant se comporte, et souvent, c'est sa résilience, c'est sa capacité de rebondir dans un moment où il ne va pas bien. Mais nous, on va mettre un médicament là-dessus parce que ça dérange.
Exact. Alors,
Et c'est là qu'est le problème de fond.
Et quelles sont les solutions?
Mais les solutions, c'est de regarder, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, premièrement, c'est d'arrêter d'imaginer qu'un enfant est seul dans un bocal et que nous, en tant qu'adultes ou en tant que frères et sœurs, on ne peut pas avoir un impact sur sa vie. Nous vivons dans une société, c'est systémique, une société. Autrement dit, même deux jumeaux qui vivent ensemble, le simple fait qu'il y en a un des deux qui réagisse un peu vers la droite, ça va amener l'autre vers la gauche pour pouvoir créer son identité. Pourtant, ils ont la même génétique, mais c'est la dynamique entre les deux jumeaux qui va faire en sorte qu'il va y avoir des différence entre les enfants, même si un certain nombre de comportements seront pareils. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que oui, nous pouvons faire quelque chose. Donc, regardons qu'est-ce qui se passe chez l'enfant. Est-ce qu'on peut diminuer les écrans? Est-ce qu'on peut l'accompagner? Il y a des choses qui doivent se passer aussi au niveau des écoles. L'intégration mur à mur des élèves porteurs d'un handicap, on savait très bien que c'était hasardeux. D'un point de vue social, c'est génial, mais on n'a pas donné les ressources nécessaires aux enseignants pour que ça puisse marcher. Donc, collectivement, est-ce qu'on peut se poser des questions?
Oui, parce que les enfants n'évoluent pas de la même façon. Alors, de grâce, en milieu scolaire, cessons, et je ne pointe pas personne du doigt, mais cessons de poser des diagnostics ultra rapides, sans fondement, alors qu'un enfant peut-être a juste besoin d'un peu plus d'attention qu'un autre. On n'a pas besoin de pilules pour régler ce genre de problème-là.
Oui, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on va voir un neuropsychologue que nécessairement les choses vont aller mieux, dans le sens que le neuropsychologue va passer quelques heures à faire des tests, mais s'il fait un test de TDAH, il n'aura peut-être pas nécessairement pris le temps de vérifier est-ce que cet enfant-là a vécu un trauma? Est-ce que ce que cet enfant-là mange, c'est adéquat par rapport à ce qu'il à qui il est et comment il digère? Est-ce que la manière, la dynamique, l'aliénation parentale qui peut exister peut être là? Est-ce qu'il est face à un enseignant qui est en difficulté? Parce que ça arrive, c'est dur d'enseigner. Donc, quelquefois, l'enseignant a perdu ses points de repère, sa bienveillance. Donc, est-ce qu'on peut travailler avec l'enseignant pour amener plus de bienveillance dans la classe? Et c'est donc, de nouveau, c'est pas l'objectif, c'est de sortir d'un discours pour ou contre ou d'un discours c'est de la faute d'un tel ou d'un tel. C'est attention, collectivement, qu'est-ce qu'on va mettre en place désormais pour aider nos jeunes parce qu'on est en train de frapper un mur?
Et merci de nous éduquer, merci de nous sensibiliser, docteur Joël Monzé. Et on va mettre votre entrevue en ligne sur le sim.fm pour les gens qui voudraient vous réécouter. Merci beaucoup.
Merci de votre temps.
Avec plaisir.